patrimoine templier et hospitalier, en vallée de la Vézère, le podcast. Bienvenue dans l'histoire des chevaliers templiers et hospitaliers de notre région, avec le soutien des troubadours des offices de tourisme de Brive Agglomération, Vézère-Périgord Noir, Terre de Corrèze, de la Haute-Corrèze, de Lascaux-Dordogne-Vallée-Vézère et naturellement Périgord. Leur patrimoine est aujourd'hui mis en valeur grâce à la création d'un réseau de 20 sites, publics ou privés, en lien historique avec ses ordres religieux militaires. Leurs vestiges, symboles d'une richesse patrimoniale à redécouvrir, parsèment nos territoires. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au Temple de l'Eau.
En 1139, sous l'influence de Geoffroy de Cozes, évêque de Périgueux, les chevaliers templiers arrivent en Périgord avec la donation de l'église Saint-Maurice d'Andrivaux, au sud de la cité périgourdine. Profitant de cette première implantation, les Templiers bénéficient de dons supplémentaires de seigneurs locaux du Périgord. On pense qu'ils arrivent dans la plaine de l'Auvézère vers le milieu du XIIe siècle. Ils installent la commanderie du Temple de l'Eau au bord de la rive droite de cette rivière. Grâce aux donations des seigneurs d'Hautefort, ils disposent d'un territoire qui s'insère entre les limites paroissiales de Chervé-Cuba, élargi à Saint-Martial-Laborie en 1274, à la faveur d'une donation de Marguerite de Borne, ce qui lui valut un temps le nom de Maison des Templiers du pont de Saint-Martial. S'établir au bord d'une rivière présentait de nombreux avantages. Entre points de passage, poissons et utilisation de l'eau vive, Madame Hamelin, actuelle propriétaire, passionnée d'histoire, revient sur cette implantation.
Alors, je peux compléter aussi un petit peu en disant pourquoi se sont-ils installés ici. D'abord, il y avait des terres qui étaient quand même assez fertiles et on est près de la rivière. Et la rivière présentait de nombreux avantages pour eux. D'installer une pêcherie pour qu'ils puissent manger leurs poissons trois fois par semaine. Ils entretenaient le pont. Ça leur permettait de toucher un droit de passage sur les marchandises qui transitaient les jours de foire et marché. Le fait d'habiter à côté de la rivière, en plus, ils ont évidemment construit un moulin. Le moulin qui leur a permis de vendre la farine. Et voilà, ici, ils ont construit un four à pain. On savait que ils proposaient aux gens de venir se servir du four, moyennant quoi ils percevaient encore une taxe sur ce qu'on appelait les banalités. Donc, ça représentait beaucoup d'avantages.
De plus, les Templiers ont reçu l'autorisation des seigneurs de construire un pigeonnier, très utile pour la colombine qui leur servait d'engrais. Cette construction existe toujours sur un terrain privé. Templiers comme hospitaliers avaient le privilège, directement donné par le pape, d'avoir leur propre lieu de culte au sein des commanderies. Malheureusement, la chapelle fut vendue en 1821 à un habitant du temple, Poncé Lambert, qui la démonta. Une cloche fut donnée à l'église de Chervé et la pierre d'autel à la maison du Temple de l'Eau. Madame Hamelin a une étonnante anecdote à nous raconter à ce sujet.
Ce que je sais, c'est que, après, on y croit ou pas, mais ma tante a fait venir un radiesthésiste qui est passé un peu partout à l'extérieur et qui a dit qu'il y avait des tombes de Templiers. Elle voyait des corps d'hommes et de femmes dans la cour. Voilà. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une église, puisque l'église a été vendue. Donc, il y avait un cimetière. On ne sait pas, je n'ai pas trouvé où était l'église exactement. Mais le cimetière autour n'a jamais été déménagé, contrairement au cimetière de Saint-Martial-Laborie, par exemple.
Dans la maison actuelle, la commanderie se trouvait très certainement au centre du bâtiment, avec un toit en lauze. Elle possédait une pièce à vivre en bas et une pièce de repos au-dessus, relié par un escalier probablement extérieur avec une meurtrière à sa base. Les deux pièces étaient pourvues d'une cheminée. Il ne subsiste actuellement de la commanderie que le corps de logis, remanié au XVIIe siècle, la pierre d'autel avec sa croix pâtée et le pigeonnier. Madame Hamelin nous donne néanmoins quelques précisions sur les traces les plus anciennes.
Un charpentier, compagnon du Tour de France, est très féru de dater les éléments sur lesquels il travaillait, m'a dit que la charpente, lorsqu'elle avait été restaurée, était très ancienne. Il la date du XIIe. La forme de la maison actuelle n'a rien à voir. Hein. Et donc, il m'a dit qu'on pouvait bien séparer ce qui pouvait être la commanderie des deux ailes qui ont été remaniées au XVIIe siècle.
À l'extérieur, le long du mur côté route, on peut apercevoir un curieux dispositif avec un escalier en pierre dont le but peut nous paraître surprenant aujourd'hui.
Un montoir, ça servait à monter sur un cheval quand on était lourdement équipé. Voilà. Donc, ça fait quand même penser au Moyen-Âge et aux soldats. De là à penser que ça pouvait être des Templiers, il n'y a qu'un pas. Mais personne ne l'a jamais daté. Donc, je m'interdis complètement d'avancer des choses sans en avoir eu la preuve. Voilà.
Habiter dans une commanderie où ont vécu les Templiers il y a fort longtemps n'est pas anodin. Madame Hamelin nous livre son ressenti.
Ah ben moi, je trouve que ça ajoute au fait d'être dans un lieu habité par la famille depuis plus de deux siècles. Toute cette histoire n'est pas anodine et je la sens encore vivre ici. Mais je veux dire que leur empreinte y est, ça c'est sûr. Voilà, je dirais plus ça comme ça. Leur empreinte y est et on le sent, moi je le sens ici.
Après l'arrestation des Templiers, le 13 octobre 1307, le Temple de l'Eau, comme le Temple L'Aiguillon, deviennent la propriété des hospitaliers de la commanderie de Condat. Malgré l'arrivée de ces chevaliers, l'empreinte des légendes templières existe toujours. Revenons-y avec la propriétaire.
Ben, le trésor des Templiers, oui, on en parle à chaque fois parce que je rassure toujours tout le monde en disant que non, je ne l'ai pas trouvé. Mais de toute façon, je suis vraiment persuadée que tous les Templiers ne sont pas morts, que c'est un ordre qui continue à vivre. C'était un ordre très secret, hein, qui ne partageait que le côté religieux avec le pape. Mais sinon, ils avaient beaucoup de secrets et en tout cas, ils avaient un alphabet secret. Et donc, ils pouvaient communiquer entre eux sans que personne ne comprenne. Je suis persuadée que le trésor avait été mis en lieu sûr, parce qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs. Oui, ils se sont fait attraper comme ça, mais il y avait des signes avant-coureurs. Hein. Et je pense que l'ordre vit toujours. Et peut-être que eux, ils savent où il est.
Enfin, Madame Hamelin nous raconte comment elle a découvert l'opération portée par les offices du tourisme valorisant ce patrimoine.
J'ai eu connaissance de ce réseau chez Aude Goémine, qui elle-même a une commanderie des Templiers, qui, sachant qu'on habitait dans une commanderie des Templiers, m'avait proposé de venir à l'inauguration. Et donc, en y allant, j'ai découvert ce réseau qui existait. Et bien sûr, moi, plus de gens s'intéressent aux Templiers, plus je suis heureuse. Et j'ai très envie de partager avec d'autres cette passion que j'ai. Bien sûr, j'ai tout de suite accepté d'adhérer. Et ces premières visites que j'ai eues au moment des journées du patrimoine m'ont énormément plu parce que j'aime en parler. Et je me dis que dans les gens qui viennent, je me dis que peut-être qu'un jour je tomberai sur quelqu'un qui en sait plus que moi et j'apprendrai encore beaucoup de choses par ce biais-là. Donc pour moi, c'est vraiment une énorme chance de faire partie de ce réseau. Voilà.
À moins de 10 minutes en voiture, vous pouvez découvrir au Temple l'Aiguillon, l'église de l'ancienne commanderie appelée aussi Temple le Sec.
Ce podcast est réalisé par Brive Tourisme dans le cadre du réseau patrimonial des sites templiers et hospitaliers de la vallée de la Vézère, en collaboration avec les équipes des offices de tourisme partenaires. Retrouvez cette série de podcasts sur leur site web. Nous vous souhaitons une belle découverte. Voix : Camille Inès, Eleven Labs, intervenant : Martine Hamelin.